Aujourd'hui, il n'y aura pas de nouvelles parce que Pascal CV est parti passer son test de moto, je crois. On va lui souhaiter un bon succès. J'espère qu'elle ne coulera pas. On va y mettre de la pression. Parce que elle revient la semaine prochaine. On va être obligé de dire si vous venez de le passer. Mais je vais vous en donner une nouvelle quand même aujourd'hui parce qu'il y en a une dans l'actualité qui m'interpelle particulièrement. Puis je veux savoir ce que vous en pensez aussi. Les Redskins de Washington, que certains ont beaucoup aimé. C'était qui donc? Les Redskins de Washington, ils ont déjà eu il y a été des années, ils ont été une très, très bonne équipe. Ils ont gagné le Super Bowl, rappelez-vous. Il y avait des partisans même au Québec, là, des Redskins. Mais la raison pourquoi je parle de ça, c'est pas pour vous parler des joueurs qui ont joué à Washington. C'est pour vous dire que le nom des Redskins va devoir disparaître. Et là, on ne sait pas encore c'est quoi le nouveau nom, mais on sait qu'ils ne pourront plus utiliser le nom des Redskins pour leur équipe de football de la NFL à Washington. Puis là, vous allez me dire, Eric, c'est tout à fait cohérent. C'est de plus en plus le cas. Rappelez-vous, les Indiens de Cleveland au baseball, ils ne pouvaient même plus aller à Toronto avec leur logo parce qu'on voyait l'Autochtone sur le chandail. Rappelez-vous aussi des Redmen de McGill. Ils ont changé de nom. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est l'équipe des pas de nom de McGill. Rappelez-vous les poules de... C'est pour ça que c'est encore beaucoup plus récent. Là. C'était pas par rapport aux Autochtones. Celui-là, c'était par rapport aux Noirs, mais je vous en ai parlé, là, ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Aunt Jemima qui est disparu là, des bouteilles de sirop. L'Oréal qui ne peut plus écrire le mot blanchiment ou blanc ou clair sur ses cosmétiques. Bart Simpson, les Simpsons vont pouvoir seulement être doublés par des gens noirs si c'est des personnages noirs. Puis, ce changement, ces changements de nom-là à répétition, ça me fait capoter. Là, il y a quelqu'un qui me dit les prochains, c'est les Blackhawks de Chicago. Oui, il y a les Blackhawks, effectivement, aussi. C'est la tête autochtone, là. Puis, c'est d'ailleurs une entreprise de Québec, même, qui fait les logos puis les chandails. On y leur avait parlé un moment donné. Puis, il y a beaucoup de pression pour que les Blackhawks aussi changent de nom. Puis, c'est très dérangeant, toute cette rectitude politique-là, parce que dans bien des cas, ça rendait hommage aux Autochtones. Je pense pas que les gens à Washington qui sont des fans finis des Redskins sont anti-Autochtones. Je pense pas que les étudiants de l'Université McGill ils détestent les Autochtones, puis c'est un signe d'anti-Autochtones quand ils vont encourager leur équipe. La même chose pour les gens de Cleveland quand ils vont encourager leur équipe de baseball. Puis la même chose pour les gens de Chicago. Même on disait qu'il y avait des gens de la tribu là, qui est sur le logo des Blackhawks qui disait combien que c'était un honneur pour eux. Mais on est tellement dans rectitude politique crasse que ça va disparaître. Puis c'est vraiment triste parce que je pensais qu'on avait gagné cette bataille-là. J'étais un peu naïf, là, mais quand il y a eu tous les débats, je me disais, non, c'est fini, là, les gens vont comprendre. Puis là, aujourd'hui, vous savez, je m'en vais. Là, j'aurai plus de micro à partir de... Dans 2 heures. C'est peut-être la chose qui me rend le plus triste. On est très peu nombreux, je trouve, beaucoup trop peu nombreux dans les médias au Québec à dénoncer ce genre d'absurdité-là. Puis je vais vous donner un autre exemple. Là, vous allez me dire, Éric, ça n'a pas rapport, mais oui, ça a rapport. Hier, on a interviewé un jeune étudiant, un gars qui a à peine 20 ans, qui étudiait à l'UQAM à Montréal, qui se ramasse avec un prof qui n'aime pas ses idées parce que le gars, il fait partie d'une organisation catholique, nationaliste, souverainiste. Et le prof, qui est un sympathisant des Antifa, se met à partager des messages des Antifa, dont un qui permet d'identifier où il habite, et l'étudiant se fait vandaliser sa résidence. Au moment où je vous parle, là, le prof n'a jamais eu le courage de répondre ni à nos appels, ni à nos courriels. J'y ai même envoyé hier un message directement sur Twitter. Il a tweeté des messages depuis ce temps-là. Je sais qu'il a lu mon message, mais il ne répond pas à notre demande d'entrevue. L'UQAM non plus. Ce prof-là risque de s'en tirer indemne. Puis là, tu te dis, comment ça se fait que ça arrive dans une société? Imaginez 2 secondes l'inverse, là. Imaginez qu'un prof de droite n'aurait pas aimé les idées de Québec solidaire d'un de ses étudiants, puis il se serait arrangé pour que son adresse, puis il aurait partagé ses réseaux sociaux des moyens de trouver l'adresse de la personne qui dénonce, de son étudiant qui dénonce, puis que cet étudiant-là se serait fait vandaliser ou aurait été victime de violence quelconque. C'est sûr et certain que dans la journée qui suit, Radio-Canada ouvrait le téléjournal, puis ce gars-là perdait sa job. Mais là, parce que c'est le contraire, parce que c'est un bon petit gauchiste radical QS antifa de l'UQAM, ben lui, il va garder sa position puis sa grosse job payée dans les six chiffres par vous, les contribuables. Puis à part moi, là, il y a personne au Québec aujourd'hui qui défend cet étudiant-là puis qui trouve que ça n'a pas de bon sens, qu'on utilise la violence, l'intimidation puis que ça vient en plus d'un professeur d'université. Il n'y a pas beaucoup de gens qui dénoncent ce dérapage de la gauche radicale. Puis c'est ça qui me désole le plus. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ça change, mais j'ai comme l'impression qu'à tous les jours, ça se détériore. J'ai pas l'impression qu'on s'en va dans le bon sens. Puis dans les médias, c'est encore pire. C'est de plus en plus ratatiné. Cette voix-là, on l'entend de moins en moins. Puis pendant ce temps-là, ben c'est ça, le dérapage se continue, puis L'Oréal n'utilisera plus le mot blanc, puis Aunt Jemima, vous y verrez pas à face, puis c'est quoi, c'est le riz Uncle Ben's aussi, puis c'est les Indiens de Cleveland, ils vont s'appeler les No-Names de Cleveland, puis les Redmond de McGill vont s'appeler les No-Names de McGill, puis les Redskins de Washington vont s'appeler les No-Names de Washington. Fait qu'on va avoir bien des équipes No-Names contre les No-Names. Puis pendant qu'on interdit tout ce qui fait référence à quelque chose qui pourrait peut-être être un groupe minoritaire qu'il faut défendre à n'importe quel prix, même contre leur propre volonté, on a la NBA au basketball qui va permettre aux joueurs de mettre d'autres choses que leur nom sur leurs uniformes, notamment des slogans de la gauche radicale ou des noms de pseudo-victimes de la gauche radicale. C'est quand même assez bizarre, vous trouvez pas? En tout cas, regarde, je sais pas où qu'on s'en va, mais on s'en va pas dans le bon sens, puis je sais pas ce que ça va prendre pour revirer le bateau de bord. Mais à un moment donné, il va falloir donner des coups de rame quelque part là, pour que ça revire, là, parce que jusqu'où on va s'enfoncer, j'en ai aucune espèce d'idée, mais ça peut plus continuer. Là. Il faut que le gros bon sens revienne quelque part. Puis malheureusement, à tous les jours, on apprend des nouvelles où ça va exactement dans le sens contraire. Puis aujourd'hui, ben on apprend que c'est les Redskins de Washington qui vont passer à la trappe. Vous n'entendrez plus parler là, à partir de très bientôt. De toute façon, on ne sait même pas quand est-ce que la saison de la NFL va commencer. Je ne sais pas s'ils vont commencer avec ce nouveau nom-là ou s'ils vont garder les Redskins en attendant. Puis, tu sais, c'est tellement rendu fou que plein de ces équipes-là, ou plein de ces... Les élus municipaux s'en mêlent. Ils veulent interdire à ces équipes-là d'œuvrer. J'ai vu qu'aussi à Cincinnati, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, là, l'ancienne propriétaire des Reds de Cincinnati, on l'accuse d'être une femme qui est morte là, il y a 15 ou 20 ans. Là. Mais elle aurait eu des propos antisémites, puis elle aurait eu des propos racistes quand elle était propriétaire de l'équipe. Puis il y avait eu quelques controverses à l'époque. Mais la madame était très riche, puis elle avait le cœur à la bonne place, puis son équipe, elle y tenait. Puis je me souviens, on voyait les games des Reds, comment ça s'appelle, les Reds de Cincinnati, puis elle était souvent là. Et là, on se dit, on est en train d'enlever le nom de stade, on est en train d'enlever le nom dans des universités de cette femme-là parce que sa fondation avait donné beaucoup, beaucoup d'argent un peu partout. Puis là, tu dis, écoute, là, je comprends qu'elle a eu des propos inacceptables, mais à l'époque, là, ça a passé. Puis quand on change le nom, on est aussi en train de porter un jugement sur tout ce que nos ancêtres puis nos parents ont fait parce qu'eux l'ont laissé passer. On est en train de dire que vous êtes une gang de pas fins collectivement. C'est pas juste la femme là, qui est problématique. Si on avait accepté de donner le nom de cette femme-là à un paquet d'institutions à Cincinnati, il y avait une raison. Il y a des auditeurs qui m'écrivent et qui me disent Éric, attends, là, les Eskimos d'Edmonton. Ben, c'est vrai, les Eskimos au football, la CFL, la Ligue canadienne de football, je ne sais pas s'ils vont changer de nom aussi. Les Braves d'Atlanta au baseball. Ça va être compliqué tout à l'heure. Là. Je sais, on va falloir qu'on trouve des noms aseptisés, vides, insignifiants. Ça, d'après moi, ça va passer le test de la rectitude politique.